Toronto Universel, un nouveau bulletin d'information à la présentation Rosine Munezero. Au Burundi, Reporters sans frontières a condamné les propos tenus par le président Evariste Ndayishimiye contre un journaliste de RFI, Ezra Sindikumana, qui l'accuse de ternir l'image du pays avec un sombre tableau de la situation du Covid-19. Nous condamnons ces propos graves et dangereux qui se rappellent de la fragilité de la presse, de la liberté de la presse au Burundi, déclare le responsable du bureau Afrique de RSF, Arnaud Projet, dans ce communiqué. Le président Ndayishimiye s'en est pris nommément mardi à Ezra Sindikumana lors d'un discours dans un stade, l'accusant de vouloir détruire le Burundi. Selon les dernières statistiques officielles, le Burundi a recensé 5723 cas de coronavirus et 8 décès depuis le début de la pandémie. Au Rwanda, le rappeur Jay Polly, de son vrai nom Joshua Tuyishimiye, est décédé dans des circonstances indéterminées, a-t-on appris jeudi, auprès de l'hôpital où il avait été transféré dans la nuit. Il était détenu depuis avril après avoir été arrêté durant une fête interdite où se trouvaient des stupéfiants. Jay Polly, 33 ans, était dans un état critique et inconscient. Les médecins ont essayé de le réanimer, mais il est malheureusement décédé peu de temps après, indique Pascal Nkubito, le directeur de l'hôpital Muhima, situé dans la capitale Kigali. Je ne veux pas spéculer sur la cause du décès, nous le saurons après l'autopsie, a-t-il ajouté. Le musicien avait assisté mercredi à une audience au tribunal. La date de son procès pour usage de stupéfiants avait été fixée au 2 décembre. Il avait demandé à être libéré de prison au motif que sa période de détention provisoire de 30 jours était expirée, mais la libération sous caution lui avait été refusée. Au Kenya, 6 policiers ont été inculpés de meurtre jeudi pour la mort de 2 frères décédés après leur arrestation le 1er août dans le centre du pays pour avoir enfreint le couvre-feu en vigueur contre le Covid-19. La mort d'Emmanuel Mutura Ndwiga et Benson Njiru Ndwiga, respectivement âgés de 19 et 22 ans, avait provoqué l'indignation dans le pays et donné lieu à des manifestations parfois violentes dénonçant les brutalités policières. Les 6 policiers, 4 hommes et 2 femmes, ont plaidé non coupables lors de leur comparution jeudi devant un tribunal de Nairobi. Ils resteront en détention jusqu'à ce que leur demande de libération conditionnelle soit étudiée le 22 septembre. Au Nigeria, des hommes armés ont enlevé mercredi plus de 70 lycéens dans le nord-ouest du pays, selon la police. Dernier kidnapping en date d'une longue série visant les établissements scolaires. Les assaillants ont envahi dans la matinée le lycée de Kaya situé dans les environs de Maradoun dans l'état de Zamfara et ont enlevé 73 élèves, a déclaré Mohamed Chehou, porte-parole de la police de l'état dans un communiqué. Les autorités de l'état de Zamfara ont imposé des restrictions sur les déplacements routiers la nuit, tandis que les écoles primaires et secondaires ont été temporairement fermées, a précisé à l'AFP le ministre de l'Information de l'État, Ibrahim Dossara. Ici, aux États-Unis, New York s'est réveillé, sonné jeudi, frappé par des pluies torrentielles et des inondations soudaines et historiques, faisant au moins 14 morts dans la région au passage des restes de l'ouragan Ida, qui a semé le chaos dans le sud et le nord-est des États-Unis. Le bilan pourrait être encore plus lourd, des médias américains avançant un total de 22 morts. Parmi les victimes new-yorkaises se trouvent un enfant de 2 ans et une personne âgée de 86 ans. Le gigantesque réseau de métro de New York était à l'arrêt jeudi matin après l'inondation de nombreuses stations. Des centaines de vols ont été annulés dans les aéroports new-yorkais. Fin août, New York et sa région avaient déjà été touchés par la tempête Henri. Le président Joe Biden se rendra vendredi en Louisiane, où l'ouragan Ida, qui a touché terre dimanche, a détruit de nombreux bâtiments et privé d'électricité plus d'un million de foyers. Au Cameroun, un prêtre enlevé dimanche par des séparatistes dans le sud-ouest du pays, une des 2 régions anglophones en crise, a été libérée. Le vicaire général de la paroisse de Manté avait été kidnappé dimanche par 2 jeunes gens qui se sont identifiés comme des combattants séparatistes. La minute.
Minute Éco sur VOA Afrique avec Claire Morin-Gibourg. Le fonds gabonais d'investissement stratégique et sa filiale RISE, co-détenus avec la Banque islamique de développement, ont annoncé hier la signature du premier contrat de pré-concession avec l'État gabonais. Selon Financial Afrique, cet accord porte sur la conception, le développement, le financement, la réalisation et l'exploitation d'une route à péage au sud de Libreville qui va relier le port à la zone industrielle, au trafic routier en provenance de l'intérieur du pays, en contournant la capitale gabonaise. En Côte d'Ivoire, un important gisement de pétrole offshore a été découvert, selon Thomas Camara, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Les réserves comprennent du pétrole brut et du gaz naturel, dont le potentiel peut être estimé de manière préliminaire à environ 1,5 à 2 milliards de barils de pétrole brut, s'est félicité le ministre. Pétrole toujours, les membres de l'OPEP et leurs alliés ont validé hier leur stratégie d'augmentation progressive de la production pétrolière face à une reprise teintée d'incertitudes. Ce sommet ministériel a duré moins d'une heure, ce qui témoigne d'un consensus vite obtenu au sein des pays membres de l'OPEP.
VOA Afrique, dites-le à un ami.
Aujourd'hui, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'information. Les nouvelles du monde, le suivi de l'actualité africaine, des reportages, des interviews, des analyses sur les sujets qui vous concernent. En direct de Washington, nous décryptons pour vous la politique américaine. Le Monde aujourd'hui, du lundi au vendredi à 17h30, 18h30 et 19h30, temps universel sur VOA Afrique.